Cette crise de la représentation, elle nous renvoie à une chose essentielle qui est de dire que l'état de droit, la démocratie, a un pacte absolument essentiel avec la connaissance.
Le Front National, c'est une machine électorale qui fonctionne remarquablement et qui incarne une forme de déprofessionnalisation de la vie politique.
La représentation, c'est pas simplement dire on représente le peuple, c'est aussi faire peuple.
Aujourd'hui, les nouveaux chemins montent sur scène dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, devant un public de près de 1000 personnes qui s'est réuni samedi 30 janvier dernier pour écouter 5 débats réunissant à chaque fois 3 philosophes et historiens venus réfléchir ensemble aux enjeux philosophiques de l'année écoulée. Ces débats ont été préparés grâce à l'équipe des Nouveaux Chemins, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy et Marianne Chassor, orchestrés par l'équipe de communication de France Culture, réalisés par Mydia Portis-Guérin, avec à la prise de son Christophe Michou, Christophe Goudin, Benjamin Perru et Mathieu Leroy. Ces débats ont été organisés en partenariat avec Philosophie Magazine. Voici donc cette semaine la diffusion dans leur intégralité de ces émissions débats. Ainsi, hier, vous avez pu entendre Magali Besson, Frédéric Worms et Alain Renaud, tous trois philosophes, réfléchir au rôle du philosophe justement dans les situations d'urgence, entre nécessité du temps long et contrainte de l'événement. Demain, ce seront les philosophes Sophie Guérard de la Tour, Alain Finkielkraut et Thierry Loger qui interrogeront les notions d'identité et de nationalité et se demanderont ce que signifie être français aujourd'hui. Jeudi, les philosophes Bruno Bernardi, Rosine Létron et Michael Fessel débattront autour d'une question qui a fait beaucoup couler d'encre l'an dernier. La sécurité est-elle la condition de la liberté? Et vendredi, ce sera au tour de Régis Debray de vous proposer sa leçon de clôture autour de l'actualité de l'œuvre de Walter Benjamin. Mais vous entendez le public qui s'impatiente car il est temps de rejoindre le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour notre deuxième débat qui réunit aujourd'hui la philosophe Cynthia Fleury, l'historien et sociologue Pierre Rosanvallon et l'historien Olivier Dard afin de réfléchir aux nouvelles problématiques liées à la représentation entre abstention et montée de l'extrême droite aux dernières élections en partant d'une question, la démocratie nous représente-t-elle encore ? Bonjour à toutes et à tous, je vous laisse le temps de vous installer pour ceux qui nous rejoignent. Vous êtes encore plus nombreux pour ce deuxième débat, Sandrine Trainer l'a rappelé. La question qui me servira de point de départ est la suivante, la démocratie nous représente-t-elle encore ? Vous connaissez le principe de ce forum, c'est de partir d'événements qui ont eu lieu au cours de l'année écoulée, d'essayer d'en proposer des réflexions philosophique en particulier. Alors cette fois-ci, l'actualité n'est pas celle des attentats, une fois n'est pas coutume, mais n'est pas sans lien non plus avec les attentats. C'est celle des élections régionales de décembre 2015, à propos desquelles on peut retenir plusieurs choses. L'arrivée en tête du Front National au premier tour dans 6 régions, avec 6 millions de voix en tout. Le Front National progresse depuis 2012 à chaque élection, gardons-le en tête. 7 millions de voix au second tour, ce qui serait suffisant pour passer au second tour des présidentielles. Là aussi, c'est une donnée qu'il est bon d'avoir en tête. Donc d'un côté, l'arrivée en tête du Front National au premier tour, et dans 6 régions, et de l'autre, une abstention en recrudescence, au dire de certains, dans de nombreux départements. La question étant de savoir s'il y a un lien entre les deux, et si ce lien ne serait pas la question de la représentation. En clair, peut-on expliquer ces tendances ou ces caractéristiques des dernières élections à partir d'une évolution de la notion de représentation ? Est-ce que les nouveaux comportements, 6 nouveaux comportements électoraux, il y a, traduisent une forme, ce qu'on pourrait appeler une lassitude démocratique, un épuisement de la forme même de la représentation ? Et les citoyens qui ne votent pas expliquent-ils leur abstention par le fait qu'ils ne se sentent pas représentés? Voilà le type de question que je vais poser aujourd'hui à mes invités qui se situent à ma gauche et donc face à vous. Donc Cynthia Fleury est professeure de philosophie à l'American University of Paris, psychanalyste et tout nouvellement titulaire de la nouvelle chaire de philosophie de l'Hôtel Dieu, auteur des Irremplaçables, publié chez Gallimard, ainsi que Les pathologies de la démocratie au livre de poche. À sa gauche se trouve Olivier Dard, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Sorbonne, donc ici même, merci de nous accueillir, auteur de Charles Maurras, Le maître et l'action, paru chez Armand Collin, ainsi que Les années 30, Le choix impossible au livre de poche. Et à ma gauche se trouve Pierre Rosanvallon, historien et professeur au Collège de France, auteur lui entre autres de La démocratie inachevée, paru chez Gallimard, Le peuple introuvable chez Gallimard, ainsi que Comment revivifier la démocratie, des entretiens avec Nicolas Truong et Jacques Rancière aux éditions de l'Aube qui paraîtront le mois prochain. Alors commençons avec vous Pierre Rosanvallon sur cette question de la représentation. En quoi, si, quand on pose la question « la démocratie nous représente-t-elle encore ?» La question ou le constat qui est implicite, c'est que la notion de représentation est essentielle à l'exercice, au bon fonctionnement de la démocratie. Est-ce le cas ?
Il y a deux définitions de la représentation. La représentation, c'est d'abord une procédure qui permet aux citoyens de trouver un canal d'expression. Et donc, l'idée de démocratie représentative, elle se distingue d'abord de celle de démocratie directe. On peut faire la démocratie directe dans un petit groupe, en ce sens que une assemblée dans un quartier ou un groupe dans un atelier peut prendre des décisions. Mais quand il y a des dizaines de millions de personnes, il faut trouver des intermédiaires. Donc on peut dire que la réflexion sur la représentation comme technologie de la démocratie dans une grande société est quelque chose de très ancien. Le problème, c'est comment faire bien fonctionner cette technologie de la représentation. Et dès la Révolution française, dès septembre 1789, on voyait partout dans Paris des libelles paraître en disant « Méfions-nous, il est en train de se former une nouvelle classe d'aristocrates de la représentation ». C'est-à-dire que derrière l'idée d'une technique de représentation, il y a le risque d'une confiscation, je dirais, de la parole sociale par un petit groupe, celui des représentants. Donc toute l'histoire de la démocratie a été une réflexion et une expérimentation permanente pour trouver les moyens d'améliorer cette technique de représentation. Comment ? Eh bien en faisant en sorte, par exemple, que la durée des mandats soit plus courte, de façon à ce qu'il y ait en quelque sorte un rafraîchissement de l'esprit démocratique. Pensez que pendant la Révolution française, par exemple, le Parlement, on change les députés tous les ans. Et on a tellement peur, justement, qu'il se forme une classe politique qui confisque le pouvoir, que le président de l'Assemblée changeait toutes les semaines. Aux États-Unis, c'était la même chose. Aux États-Unis, dès la Constitution de Philadelphie, on a en place, et c'est toujours le cas aujourd'hui, un système dans lequel on change tous les deux ans les sénateurs et les membres de la Chambre des représentants. Et à l'époque, c'était considéré comme un pas en arrière, parce que beaucoup souhaitaient qu'on change tous les ans. Donc, il va y avoir la limitation de la durée des mandats, la limitation aussi du cumul des mandats, la volonté aussi de trouver les moyens de représenter les différents groupes de la société, les différentes opinions, ça va être la question de la représentation proportionnelle, le moyen aussi de mettre fin à un mandat si on n'est pas satisfait. Ça va être aux États-Unis l'expérience du recall, de la révocation, qui marche toujours dans un certain nombre d'États. Ça va être encore, et c'est le cas aux États-Unis, à partir de la fin du 19e siècle, et maintenant, c'est d'actualité partout chez nous, le fait de mettre en place des primaires. C'est-à-dire que l'électeur ne soit pas simplement celui qui fait un choix dont les termes sont décidés par d'autres, mais que l'électeur lui-même décide des choix de ce terme. Ça va être le grand débat et la grande transformation ces dernières années sur la parité aussi. Donc on voit que l'histoire de la démocratie est indissociable d'une exploration des technologies, je dirais, de l'amélioration représentative, pour essayer qu'il n'y ait moins d'entropie dans le système représentatif. Mais cette question, elle est compliquée aussi. Elle est compliquée pourquoi ? Parce que les partis politiques ont changé de nature. Les partis politiques, avant, c'est très simple, c'était des intermédiaires entre la société et le pouvoir. Le rôle des partis politiques, c'était de transmettre les aspirations, les demandes de la société auprès des pouvoirs. Aujourd'hui, les partis politiques, ils sont devenus en quelque sorte une partie des forces gouvernantes. Et à l'inverse, ils représentent les pouvoirs auprès de la société. Les partis sont là pour dire bah, appuyer le gouvernement ou au contraire contester le gouvernement. Mais ils ont changé de nature. Donc il y a toute cette interrogation sur les technologies de la représentation d'une part et d'autre part sur la quels sont les bons agents. Les partis politiques avant étaient des intermédiaires pertinents, aujourd'hui, et ils sont devenus pour ça davantage un lieu où il y a des, je dirais, davantage des personnes qui sont des professionnels de la politique et non plus des représentants de la diversité sociale. Donc il y a cette première catégorie de problèmes. Et juste, je le dis d'un mot, il y a une deuxième catégorie de problèmes, mais qui est très important. Pour bien représenter la société, il faut connaître la société. Qu'est-ce qu'il y a à représenter dans la société? Alors si on dit qu'il faut représenter des hommes et des femmes, tout le monde voit ce que ça veut dire. Si on dit qu'il faut représenter aussi différents groupes sociaux, on voit ce que ça veut dire, mais certains le sont beaucoup moins. On voit bien qu'il y a dans des quartiers des populations qui ne sont pas représentées du tout. Parce que représenter a un deuxième sens, qui n'est pas simplement un sens que l'on pourrait dire procédural, dont j'ai rappelé les éléments d'abord, mais un sens substantiel. Représenter, cela veut dire mettre sur la table les problèmes vécus dans la société. Représenter veut dire rendre présent dans le débat public les difficultés et les problèmes vécus par la société. Or, aujourd'hui, cette fonction, elle n'est pratiquement plus remplie. D'où la force des mouvements populistes qui agitent cette question de façon très générale, mais en y apportant simplement une réponse, en parlant du peuple très en général. Donc ça va être des questions sûrement sur lesquelles nous allons revenir en débat tous les trois longuement, mais il me semble important d'abord de bien montrer qu'il y a ces deux dimensions. Une dimension procédurale, une dimension de contenu. Qu'est-ce qu'il y a à représenter? Quand on parlait autrefois des catégories sociales dans les années 50, eh bien aujourd'hui il y a d'autres choses, d'autres réalités à représenter dans la société.
On va prendre le temps de déplier ces enjeux nombreux que vous venez d'énoncer, Pierre Rosanvallon. Alors Olivier Dard, je m'adresse à l'historien que vous êtes. L'inquiétude que nous manifestons à l'égard de la notion même de représentation, au beau fonctionnement démocratique, est-il propre à notre époque, à une forme d'actualité, à même l'année que nous vivons, ou eh bien est-ce quelque chose que nous retrouvons de manière cyclique dans l'histoire?
Je crois que, quoique d'aucuns puissent effectivement s'inquiéter de la situation actuelle, elle doit être quand même remise en perspective sur le plan historique, parce que, ne serait-ce qu'à travers ce que vient de dire Pierre Rosanvallon, on voit très bien que la question de la représentation, de son histoire, de ses modalités, est une affaire qui dure et qui s'inscrit dans une durée multiséculaire. Alors, cela étant, par rapport aux enjeux et à l'abstention, je crois qu'il y a peut-être deux ou trois choses à souligner. La première, c'est que nous parlons effectivement d'abstention par rapport à ces élections régionales, mais force est tout de même de constater que l'abstention aux élections locales ou régionales n'est pas non plus quelque chose d'aussi nouveau que cela, premièrement. Deuxième élément, quand on parle d'abstention, il faut aussi regarder les autres scrutins et je dirais que l'indicateur qui sera sans doute le plus intéressant, ce sera le premier tour de la future élection présidentielle. En règle générale, l'élection présidentielle, au moins sous la Ve République, est considérée comme l'élection reine. Et je crois que si on veut comparer sérieusement des taux d'abstention, il faut les comparer à des scrutins du même type. Et là, au premier tour de l'élection présidentielle, on pourra voir effectivement si oui ou non il y a un déficit de représentation, se traduisant par une abstention forte. J'en arrive justement à un troisième élément. Rappelez-vous, même si ce n'est pas de l'histoire très ancienne, au moment de l'élection présidentielle de 2007, il y avait déjà tout un débat sur le problème de la représentation, de l'abstention, etc. Et les observateurs avaient été surpris, en règle générale, du taux de participation des électeurs au premier et deuxième tour de cette élection présidentielle qu'ils avaient à l'époque expliqué. Je vous rappelle que c'était la première élection donc mettant en scène Nicolas Sarkozy et ils avaient expliqué que la rivalité Sarkozy-Royal, etc., justement, avait changé
un certain nombre de règles et avait introduit à travers ce scrutin un certain nombre d'éléments de nouveauté. Donc attention à ne pas être uniquement focalisé sur ces chiffres, effectivement, qui sont des chiffres préoccupants, mais à les remettre en perspective, justement, ne serait-ce que par rapport à une histoire récente de la Ve République.
Cynthia Fleury, peut-être sur le lien entre la représentation et la démocratie. Peut-on faire évoluer le terme même et la fonction même de la représentation au sein de l'exercice démocratique sans sacrifier celui-ci ?
Alors, on peut se rendre compte, en tout cas sur cette année, sur qu'il y a eu, d'une certaine manière, que la question même de la représentation, elle est plastique. Pourquoi ? Parce que il y a la question de la représentation politique, très clairement en crise depuis un certain temps. On l'a dit, pourquoi ? Parce que problème de représentativité de la représentation. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait améliorer la question de parité, on l'a dit, de diversité des profils, des compétences, la question du cumul des mandats, la question de la proportionnalité, la question aussi d'un comportement godillot des députés, c'est-à-dire de revenir à cette idée que normalement un député est en représentation directe avec la nation et pas nécessairement avec son parti, et que donc il y a une espèce de conscience individuelle propre qui vient aussi représenter le citoyen et pas simplement voter comme lui demande son parti. Bon, quantité de choses pour améliorer la représentativité de la représentation. Mais il s'est passé un autre moment de représentation cette année. C'est « je suis Charlie ». C'est une manière d'être représenté. C'est-à-dire que les citoyens, à un moment donné, ont inventé un hashtag, une formule. « Je suis Charlie », c'est pas rien, c'est « je suis ». Donc je suis représenté par cette idée-là. Avec, bien évidemment, la controverse autour de Charlie, mais tout de même, on a vu un grand nombre de personnes descendre et tout d'un coup se reconnaître en inventant une représentation plus sociale, plus symbolique, mais qui, à un instant T, disait aussi quelque chose de politique. C'était ça leur manière de dire « nous ». Et donc, ils étaient représentés. Ce sont d'ailleurs encore les chapelles ardentes, tout le temps, qui sont là. Bon, donc, on voit très bien qu'il y a une manière, aujourd'hui, à inventer un certain type de représentation, mais que, c'est vrai, notre représentation classique, traditionnelle, elle, pose problème. Notamment, et Pierre Rosanvallon l'a dit, il y a la question des partis. Il y a eu un phénomène de désubstantialisation des partis. Un parti, c'est plusieurs choses. C'est pas simplement une machine électoraliste. C'est pas simplement un appareil de conquête du pouvoir. C'est ça aussi, mais pas que. C'est un principe de renouvellement des élites. C'est un principe de travail, de programmation. On travaille. C'est-à-dire, on est visionnaire, on propose des stratégies. On fait pas simplement un travail de dénigrement du parti qui est au gouvernement. On prépare. Donc, tout ce travail-là, on a un travail programmatique très très faible aujourd'hui dans les partis. Donc, résultat, ils font pas ce travail de vision et d'accompagner l'alternative. Ils font simplement un travail de dénigrement. Bon, donc vous avez quantité de choses, et ils ont des comportements, on va le dire sans être désagréable, mais des comportements, ils sont atrophiés, si j'ose dire, par des comportements rentiers. Bon, tout ça fait que, tout d'un coup, cet outil magnifique, parce que c'est un grand outil, un parti, tout d'un coup, ça fait que, pour l'instant, en tout cas, cet outil est sous-utilisé. En tout cas, il est pas opérant. Donc, il faut inventer une autre manière. Alors, il y a aussi la question de la participation, d'une participation plus décisionnaire. Si on prend les formules d'Amartya Sen, de Nussbaum, etc., c'est l'idée d'une citoyenneté capacitaire. Et donc là, c'est toute la question des nouveaux outils citoyens de régulation démocratique. Comment on invente des partis ? Et là, juste un dernier mot, mais catastrophe. C'est vrai que ce qui s'est passé aux dernières élections, hélas, vient sanctifier le fait que, pour l'instant, les Français, même si ils appellent, parce qu'on très souvent dans un discours entre guillemets sondagé, ils sont tout à fait d'accord pour la mise en place de partis pirates, de nouveaux partis, etc. Et puis quand il s'agit d'aller voter pour eux, il y a comme une sorte de complexe statutaire du parti qui fait que cette prise de risque vis-à-vis d'un nouveau parti qui n'a pas encore totalement les codes des anciens partis, et tant mieux, puisque c'est cela même qu'on reproche aux anciens partis. Mais il y a ce phénomène, si vous voulez, qui est qu'un parti, à chaque fois, il doit à la fois combiner la question de la légitimité et la question de l'efficace. Et généralement, plus il va être légitime, moins il est efficace, plus il va être efficace, moins il est légitime. Bon, et donc on voit une nouvelle donne, pour ne citer que nouvelle donne, aux dernières élections, plouf. Hein. C'était essentiellement très peu, ça n'a pas appelé un vote. Donc là aussi, alors que dans d'autres pays, vous avez déjà un phénomène d'accès à une position de pouvoir de courant anti-austérité, que ce soit, on a souvent cité Podemos, on a souvent cité la Grèce, mais on peut citer Corbyn, hein, c'est juste à côté, c'est en Angleterre, et c'est aussi parlant. Voilà.
Voilà, mais Pierre Rosanvallion et Cynthia Fleury, d'ailleurs tous les trois, et Olivier Dard, vous avez fait le constat d'une évolution de la substance même inhérente à ce qu'on appelle un parti politique qui est en transformation. Mais peut-être faut-il poser la question de savoir, quand on parle de représentation, qui est représenté, oui. Qui est ce nous et qui représente. C'est pas forcément les gouvernants, c'est aussi une partie de la société politique.
Oui, bien sûr. En même temps, dire qu'il n'y a pas simplement la question de la représentation, il y a aussi la question de quel est l'intérêt du débat, quel est l'intérêt de l'affrontement. Il est très clair qu'il y a eu une rupture du point de vue des taux d'abstention dans la société française dans les années 1980. La rupture est celle d'une chute monumentale des taux de participation dans les élections législatives, cantonales, régionales et européennes. En revanche, il y a eu un maintien assez net des taux de participation aux élections présidentielles. L'élection présidentielle de 1974 est une élection présidentielle dans laquelle il y a simplement 15% d'abstention. Et l'élection présidentielle de 2007, à laquelle faisait référence Olivier Dard, il y a 80% de participation, seulement 20% d'abstention. En revanche, 5 ans plus tard, en 2012, l'abstention, elle monte à 30%. Ça veut dire que l'abstention, le taux d'abstention, est aussi lié au sentiment qu'il y a un enjeu intéressant et qu'il se joue quelque chose. Donc, comment organiser, je dirais, des affrontements intéressants? Ça, c'est aussi une dimension fondamentale de la politique. La politique, c'est... Est-ce qu'il y a le sentiment que quelque chose de décisif va se passer, que des choix réels, ou est-ce que c'est simplement changer de tête? Alors changer de tête, ça peut avoir un usage, mais enfin la démocratie, c'est pas simplement organiser un petit peu la rotation des personnages. Et effectivement, la deuxième dimension très importante, c'est ce que j'ai le sentiment que ce que je vis, ce que les problèmes qui sont les miens trouvent leur place. Et qui est donc ce nous?
Qui est ce jeu? Oui, c'est
ça. Qui est ce jeu? Ce jeu, c'est pas simplement être membre du peuple. Ce jeu, c'est habiter un certain endroit. Ce jeu, c'est avoir une certaine profession. Ce jeu, c'est avoir des attentes. Or là, il y a une double difficulté pour représenter mon jeu, ce que je suis. La première difficulté, c'est l'écart considérable qu'il y a entre le moment électoral et le moment gouvernemental. On a l'impression que le moment électoral, c'est celui où on dit « Venez à moi, les petits-enfants, je suis là pour vous écouter, tout ce que vous vivez, je le comprends. » Et donc, c'est le moment, je dirais, de l'ouverture, c'est le moment des promesses. Et après, le moment gouvernemental, ça va être celui où on met l'accent sur les difficultés, les problèmes, et à ce moment-là, il y a une césure complète. Et il y a aussi le fait que le moment électoral favorise des personnalités qui ne sont pas forcément les meilleures pour gouverner. Donc on peut dire que les tests, ceux qui passent le test de l'élection, ne seront pas forcément ceux qui aident à bien gouverner. Et qu'au fond, on a ce hiatus entre des gens qui sont des candidats formidables et du gouvernant très médiocre.
Et ça, est-ce que c'est particulièrement contemporain comme phénomène?
Oui, c'est particulièrement contemporain. Pourquoi? Parce que avant, ceux qui gouvernaient n'avaient pas un rapport aussi fort à l'élection, dans la mesure où ceux qui étaient les premiers ministres étaient nommés par le Parlement. Ils n'étaient pas les élus du suffrage universel. Le fait que le pouvoir exécutif, qui est le pouvoir central, soit élu au suffrage universel, accroît le rôle de l'élection. Et accroît donc cette dynamique qui est celle du discours des promesses, accroît cette dynamique que l'on peut dire d'un certain point de vue un peu démagogique. Et du coup, entre le parler vrai se perd un petit peu dans cette distinction. Mais indépendamment de cette césure qui devient mortelle pour nos démocraties, qui devient absolument centrale, il y a aussi le fait que le langage politique est un langage de la généralité. C'est un langage qui parle le peuple, les travailleurs, la société, les banlieues, les cadres. Ce sont des catégories dans lesquelles la plupart d'entre nous ne se retrouvent pas. Nous, notre vie, elle est faite de formes d'épreuves auxquelles on est confronté. Notre vie, elle est faite d'attentes qui rencontrent des difficultés. Notre vie, elle est celle de parcours biographiques qu'on essaie de bricoler notre existence. Et donc, je pense qu'il y a aussi un problème du langage. on pourrait dire, sociologique de la politique. La politique a un langage de généralité qui ne correspond plus au fait que dans la société, on ne se définit pas simplement par le métier que l'on a ou même le territoire dans lequel on vit, nous nous définissons tous chacun par l'itinéraire qui est le nôtre, la façon dont on essaie de mener notre vie, les épreuves, les obstacles ou les moments positifs que l'on vit. Et là, il y a un problème du contenu.
Et alors, peut-on analyser les phénomènes tels que l'abstention relative, Olivier Dard l'a rappelé, hein, des élections régionales en décembre dernier et de la montée des extrémismes, notamment du Front National, comme étant l'expression de ce malaise-là, proprement démocratique?
Voilà, c'est dire...
Je ne me reconnais plus dans la langue politique.
Je ne me reconnais pas dans la langue de bois politique.
Olivier Dard.
Voilà. Absolument, mais... Enfin, je pense que le Front National, c'est pas non seulement je ne me reconnais pas dans la langue politique, mais je veux autre chose. Et je crois que je voudrais
notre
rebondir.
Langage aussi.
Oui, je crois et je voudrais rebondir sur ce que disait Cynthia Fleury quand elle parlait de Podemos et autres mouvements. Je crois qu'en France, ce processus-là, il existe. Simplement, c'est le Front National qui, pour toute une série de raisons, est en mesure de jouer de cette alternative entre, au fond, des partis de gouvernement qui donnent le sentiment peu ou prou de faire la même chose et, effectivement, un jeu qui passe par les périphéries où le Front National s'est construit une position du dedans et du dehors, au temps de Jean-Marie Le Pen et un processus, effectivement, d'affirmation d'une volonté de conquête et d'exercice du pouvoir par le front mariniste qui, effectivement, est un élément absolument fondamental du jeu politique français actuel. Alors, un élément fondamental du jeu politique français actuel et un élément fondamental, j'ajouterais aussi, de l'histoire de ce que l'on peut appeler, ou l'extrême droite, mais je préfère plutôt parler des droites radicales françaises, car il y a, à cet égard, un très grand changement entre ce que l'on a pu voir au fond d'un siècle d'histoire de ces droites radicales françaises, depuis au fond la naissance du nationalisme avec le général Boulanger, en passant par la crise des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Et les changements, il y en a un certain nombre, mais j'en citerai au moins deux. Premier changement important, c'est que pour la première fois, avec le Front National, les droites radicales en France ont su construire un parti durable, avec un programme et une direction qui a su trouver un écho électoral qui s'est inscrit dans la durée. On est sorti effectivement de feux de paille qui avaient été notamment sous la 4ème République, le feu de paille du poujadisme en 1956. Et si on compare la situation des droites radicales en France aujourd'hui par rapport à celle des années 30, on constate que dans les années 30, pour dire un mot de l'Action française et de Maurras, il y a une influence culturelle, incontestablement, mais il n'y a pas d'influence directement politique, en ce sens qu'il n'y a pas d'influence partisane. Le changement aujourd'hui, c'est que, paradoxalement, le Front National ne peut s'appuyer sur aucun grand quotidien, aucun grand hebdomadaire, et là c'est très différent de la situation des années 30, mais en revanche, c'est une machine électorale qui fonctionne remarquablement, qui, elle, a su renouveler un certain nombre de ses militants, et qui incarne, que cela plaise ou que cela ne plaise pas, une forme de déprofessionnalisation de la vie politique. Car, on verra d'ailleurs ce que donne la suite, parce que les non-professionnels deviennent au bout d'un moment des professionnels, c'est toujours classique, mais ce qui frappe quand on observe la sociologie des partis politiques du gouvernement, et là je rejoins ce que disait Pierre Rosanvallon tout à l'heure, c'est qu'au fond, on est en présence d'acteurs politiques qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas véritablement eu de vie professionnelle. Ils sont nés dans les partis politiques. Si vous regardez le parcours d'un certain nombre de dirigeants, et je ne citerai aucun nom pour ne fâcher personne, mais on démarre attaché parlementaire et on finit dirigeant politique. Bon. Si vous regardez effectivement ce qu'était la sociologie des acteurs politiques quelques décennies plus tôt, vous aviez effectivement des acteurs politiques qui pouvaient exciper d'une qualité professionnelle qui, effectivement, au bout de 15 ans, n'était plus tout à fait à l'heure, mais qui avait quand même bel et bien existé.
Alors, là, c'est le problème des élites qu'on désigne comme étant ne représentant pas suffisamment.
C'est une partie du problème des élites, et notamment des élites politiques, mais reposant, et je ne veux pas monopoliser la parole, mais reposant la question que posait à la fois Pierre Rosanvallon et que vous posiez aussi, Cynthia Fleury, c'est-à-dire, au fond, des partis politiques.
et de ce à quoi servent les partis politiques et d'une capacité de médiation ou non des partis politiques par rapport, effectivement, à un certain nombre de groupes sociaux. Et le Front National est en mesure de le faire et a réussi, d'ailleurs, de ce point de vue, remarquablement, ces dernières années, à incarner non seulement une France dite d'en bas, mais aussi une France périphérique. Et je crois que ça, c'est un élément tout à fait intéressant.
Et essayons nous-mêmes, justement, en posant la question de la représentation, de ne pas se situer uniquement du point de vue des représentants, là on parle des partis politiques, mais aussi des représentés. La question qui se pose, Cynthia Fleury, est celle de savoir si, dans la configuration qui est la nôtre en ce moment, le peuple est toujours souverain, ou est-ce que l'exercice du pouvoir a été récupéré, confisqué, pour reprendre le terme de Pierre Rosanvallon, par ces partis politiques ou une forme d'élite ?
Structurellement, au début, c'est toujours de toute façon, c'est jamais direct, hein, le rapport de la souveraineté. Il est souverain, mais je vais voler le terme de Rosanvallon, mais vous avez une modalité négative de l'expression de la souveraineté. Donc le peuple contrôle, le peuple empêche, il ne dirige pas directement. Il n'empêche que ce qui est certain, c'est aujourd'hui, je crois, une volonté de dépasser cette simple modalité négative de la souveraineté, de voir comment on peut positiver une souveraineté sans en passer par une souveraineté directe qui renverrait en même temps à des vieilles lunes de dictature de la majorité. Donc on a vraiment trouvé des combinaisons plus justes, plus efficaces entre représentation améliorée et participation. Cette crise de la représentation, elle nous renvoie à une chose essentielle qui est de dire que l'état de droit, la démocratie a un pacte absolument essentiel avec la connaissance. Donc, le premier point, c'est de dire cette représentation doit être une affaire de connaissance. Et c'est pour ça que le mot d'ordre de Valls a été désastreux. On n'explique plus.
Hein. Vous pensez à quoi ?
Je pense à précisément le fait qu'il a considéré qu'on expliquait trop et que maintenant il fallait agir, par exemple. Bon, et que expliquer, c'était justifier un certain type d'action, notamment mortifère pour la démocratie. Je pense aux attentats, etc. Dans l'état de droit, on explique. Dans l'état de droit et dans la démocratie en règle générale, et le sujet même, si vous voulez, l'homme est ce vivant qui, précisément, ne clive pas l'agir et la pensée. Et nous fonctionnons dans des systèmes où on demande au sujet de se cliver pour agir. Il y aurait d'un côté ceux qui pensent et de l'autre côté ceux qui agissent. Avec une disqualification, on joue à disqualifier l'un par l'autre sans cesse. Et pareil au niveau de l'état de droit. L'état d'urgence, il n'est plus temps d'expliquer, etc. Pas du tout. Donc premier pacte absolument nécessaire avec les sciences humaines, avec les humanités scientifiques, ça soutient l'état de droit, c'est d'expliquer, de chercher. Pourquoi ? Parce que quand on parle de crise, par exemple, la crise. Il n'y a pas la crise. Ça n'existe pas. Là, je voyais encore, c'était, je crois, la une de Marianne. On était encore, il y a 5 ans, à 85 personnes qui représentent la richesse de 3,5 milliards de personnes. Aujourd'hui, 62. C'est-à-dire, dans les 5 dernières années, les plus grandes fortunes ont multiplié par 50% leur propre fortune. Donc, c'est pas la crise pour tout le monde. Donc, on utilise aujourd'hui le terme crise pour précisément ne pas penser ce qui est critique dans cette crise. Ça devient l'alibi de pas penser. Alors que, bien évidemment, la démocratie est critique, elle pense la crise, elle la détricote, elle la déconstruit et elle l'explique et elle revient à son sujet de fond qui est non pas simplement la redistribution, mais la répartition, l'égalité, etc., etc. Donc, premier pacte, c'est la représentation avec ce souci de connaissance. Deuxième temps, c'est ce qui a été dit précédemment, c'est le lien de la représentation avec la reconnaissance. Se sentir effectivement reconnu. Et c'est tout ce sentiment de vécu existentiel. Et là, on a vraiment un grand territoire, mais c'est vrai qu'il y a un lien plus singulier qui ne veut pas dire du tout le fait d'effacer le « nous », mais il y a quelque chose, moi j'ai dans un livre parlé d'irremplaçabilité, donc il y a quelque chose d'une singularité, d'un lien. Je crois que la citoyenneté aujourd'hui est le fruit d'une individuation. C'est-à-dire qu'il y a un lien tout particulier à trouver entre l'individuation du sujet.
Et paradoxal, parce qu'on fait de la démocratie la représentation du peuple et non pas de l'individu.
Tout à fait. Mais autant je vois très bien comment individualisme et citoyenneté peuvent s'opposer, autant individuation et citoyenneté travaillent ensemble. Dernier point, c'est intéressant, les jeux de circulation et de régulation. Là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, vous avez vu, c'était l'appel qu'a Piketty sur les primaires ouvertes. Hein. Donc, c'est-à-dire, tout d'un coup, le fait que c'est la société civile qui se ressaisit normalement d'un jeu qui concerne le statutaire et les règlements internes des partis, et tout d'un coup, par phénomène de pression, voilà, la société civile rentre, fait un appel et va créer une pression pour au minimum qu'il y ait un respect du côté, ne serait-ce que de la gauche, de ses propres statuts, et de la même façon d'essayer de soutenir un processus de primaire ouverte à droite. Ça fait aussi partie d'une amélioration possible à terme d'une représentation et d'un jeu nouveau, hein, de rapports de force un peu différents, dehors, dedans, avec les partis.
Pierre Rosanvallon.
Oui, ben là c'est l'exemple d'amélioration. L'utilisation des primaires est quelque chose qui rentre, je dirais, dans l'ordre des réformes d'amélioration des procédures électorales. Donc c'est une dimension fondamentale. Mais je pense, en même temps, moi j'étais signataire de cet appel aussi, mais je pense que nous ne pouvons pas tout attendre de cela. Et cette dimension de représenter la société comme production de connaissances est décisive. On peut d'ailleurs rappeler qu'historiquement, avant le suffrage universel, le peuple social, disons, les ouvriers, pour faire vite, les classes populaires n'étaient pas représentées parce qu'elles n'avaient pas le droit de vote. Mais à ce moment-là, il y avait les poètes ouvriers. À ce moment-là, il y avait Eugène Sue qui écrivait Les Mystères de Paris. Il y avait Victor Hugo qui écrivait Les Misérables. Il y avait aussi ces nouveaux journaux comme L'Artisan, L'Écho de l'Atelier, qui publiaient des enquêtes sur la condition ouvrière. Et avant d'avoir eu le bulletin de vote, le monde ouvrier a eu sa vie qui était racontée, sa vie qui était mise sur la table, qui devenait un objet de connaissance pour la société. Eugène Sue avait eu cette formule extraordinaire quand il avait préfacé un recueil de ses poètes ouvriers qui était très en vogue dans les années 40, 1840. Il avait écrit en préface d'un recueil « Ah, les ouvriers n'ont pas encore la représentation politique, mais ils ont déjà la représentation poétique ». Cela voulait dire que, justement, être représenté, c'est voir prendre au sérieux dans la société ce que l'on vit.
Mais est-ce que ce sont eux qui se déplacent le moins pour voter aujourd'hui ? Est-ce que les ouvriers...
Aujourd'hui, l'abstention, c'est très simple. Moins on est diplômé et plus on est dans une situation de précarité, moins on vote. Il y a une relation directe entre taux de vote et puis je dirais taux de diplôme et taux d'insertion dans la société. De même que le vote n'est pas simplement individuel, la sociologie électorale montre par exemple très bien que le fait de participer ou pas à une élection est très lié au groupe de voisinage, au groupe de travail, au groupe familial. Donc il y a encore une dimension à quel collectif on appartient. Est-ce qu'on appartient à un groupe dans lequel on discute, à un groupe qui se sent inséré dans la société, au contraire à celui qui ne l'est pas. Ça, c'est une variable importante. Mais si la question est, si les partis politiques aujourd'hui ne sont plus d'abord des représentants de la diversité sociale, et ils avaient leurs élites, parce qu'il y a des élites ouvrières, dans le syndicat, elles ont été nombreuses, il y a des élites des classes populaires, mais les partis fabriquaient, je dirais, des élites, des vraies élites sociales, pas une élite coupée de la société, mais des élites rattachées à chaque groupe de la société. Ça n'est plus leur fonction aujourd'hui. On pourra expliquer pourquoi. Je pense qu'on ne reviendra pas au parti ancien.
Mais si on ne revient pas
au parti ancien, cela veut dire qu'il faut trouver un substitut. Quels vont être les moyens de produire justement de la représentation au sens figuré, de rendre présents les problèmes vécus dans la société? Eh bien, je pense qu'il faut faire émerger une nouvelle génération d'institutions de la société civile. Il y a un rôle des sciences sociales aussi. Après tout, le rôle de la sociologie, c'est tout de même de rendre plus lisible la société.
Mais c'est ça, ce que vous dites en fait, c'est que pour que représentation politique il puisse y avoir, il faut d'abord qu'il y ait une représentation sociologique, sociale.
Exactement. Moi, c'est pour cela que j'ai lancé ce programme Raconter la vie, qui essaie à travers un site internet et des petits livres de faire connaître des éléments de la vie de la société qui ne sont pas pris en compte. Je prends juste un petit exemple. Quand on parle des ouvriers, on prononce le mot ouvrier, tout le monde a en tête immédiatement la sidérurgie, ce qui se passe dans l'automobile, ce qui se passe dans la pétrochimie. Si vous regardez les statistiques INSEE, les trois groupes d'ouvriers qui progressent le plus, ce sont les métiers de la logistique, ce sont les chauffeurs-livreurs et ce sont les réparateurs à domicile. Mais où voyez-vous des reportages télévision? Parce que ces gens-là sont très peu syndiqués, ces gens-là du coup ne sont pas représentés. Ce qu'ils vivent n'est pas raconté dans la société. Et du coup, ça nourrit aussi le sentiment, ben voilà, tout ça c'est pas pour nous. On est dans un monde qui ne nous connaît pas, qui ne parle pas de nous. Et il y a là beaucoup de tout un effort, ça peut être aussi celui de médias, mais justement, ça peut être aussi celui de cinéastes qui essaient de pallier, si je puis dire, cette absence de représentation en faisant le portrait de personnes, en parlant de lieux qui sont ignorés dans la société. Mais cela, ne l'attendons pas des partis politiques. C'est à la société civile. C'est au monde de la production de la connaissance, c'est au monde médiatique aussi, je pense, de faire ce travail de représentation. Pendant la Révolution, il y avait d'ailleurs eu un débat très intéressant pour savoir qui était le vrai représentant dans la société. Est-ce que c'était le journaliste, celui qui parlait de la réalité, ou est-ce que c'était le député ? Et il y a des débats célèbres, Marat notamment, qui avait ce journal qui s'appelait L'Ami du Peuple, disait toujours « Non, le vrai représentant, c'est moi, parce que moi, je parle tous les jours de ce qui se passe dans la société, alors que le député, il est, pour reprendre la formule de Gaulle, il est simplement l'élu d'un jour. » Cette allégorie montre bien aussi à quel point nous avons besoin de penser que ça n'est pas simplement en attendant des choses des partis politiques, mais en faisant nous-mêmes là où nous sommes. Si nous sommes dans l'université des choses, si nous sommes dans les médias d'autres choses, dans des groupes citoyens aussi, trouver le moyen de rendre présent dans le débat public ce que vivent les gens dans la société.
Olivier Dard, une manière de rendre présente cette représentation, justement en sortant du politique, c'est de s'intéresser à une représentation qui serait plus sociale, économique, par le biais notamment des syndicats.
Oui, mais je crois que la crise de la représentation, effectivement, dont nous parlons, bon, elle est une crise de la représentation politique. Je voudrais simplement, avant de venir aux questions sociales, dire quand même un mot de ce dont nous n'avons pas encore parlé, qui renvoie notamment aux résultats des référendums sur les questions européennes. Et on parlait de la question des questions européennes. Je crois que les deux référendums sur Maastricht d'abord, mais surtout sur la Constitution européenne, ont posé très directement le problème, effectivement, de l'adéquation entre le vote des citoyens et les réactions des élites gouvernementales. Et j'ajouterais que pour comprendre cette question de la représentation, il faut bien sûr évoquer le cas français, c'est ce que nous faisons ici, mais ne pas négliger le fait que c'est un processus que l'on retrouve ailleurs. Et vous parliez tous les deux de l'intérêt des primaires. Très bien, mettons en place des primaires. Mais si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, là, actuellement, que ce soit dans les primaires républicaines ou dans les primaires démocrates, avec deux acteurs politiques très différents, mais qui ont au moins en commun un refus de ce qu'on appelle l'establishment, on voit bien qu'il y a, des deux côtés de l'Atlantique, un processus, effectivement, de défiance vis-à-vis des élites, vis-à-vis de la parole politique et vis-à-vis aussi des résultats. Car on néglige aussi le fait que Pierre-Rosan Vallon parlait tout à l'heure, effectivement, des promesses électorales, bien sûr, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, mais tout de même, les électeurs, évidemment, au bout de quelques décennies, font le point et le bilan sur un certain nombre de résultats, notamment économiques et sociaux, et nous n'avons pas encore parlé du chômage, mais je crois que c'est quand même un élément essentiel. Alors, j'en arrive, effectivement, à un autre aspect qui est fondamental, qui renvoie à la question de la représentation économique et sociale. Car aujourd'hui, quand on parle représentation, on pense bien entendu représentation politique, mais pendant des décennies, la question économique et sociale a été fondamentale dans les enjeux et dans l'histoire de la représentation. Ce n'est pas à Pierre-Rosan Vallon que je vais raconter l'histoire des corps intermédiaires, il connaît ça par cœur.
Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors
voilà. Mais toute cette question, au fond, de savoir si on ne pourrait pas doter chacun d'une forme de citoyenneté économique et sociale, si on ne pourrait pas créer une chambre, une deuxième chambre. À l'époque, sous la Troisième République, ça avait été les débuts du Conseil national économique, devenu ensuite le Conseil économique et social, mais qui ne pèse pas pour grand-chose, bien sûr, mais qui témoigne effectivement de cette idée-là. Et ce que l'on observe, c'est que au fur et à mesure que l'histoire évolue, eh bien, cette question de la représentation économique et sociale cherche de plus en plus ses marques, parce que du point de vue syndical, nous avons effectivement en France, et ce n'est pas si nouveau, mais ça s'aggrave, un taux de syndicalisation particulièrement bas.
Nous avons également un problème effectivement de rigidité quant à l'accès effectivement d'un certain nombre de nouveaux entrants sur, si je puis dire, les élections professionnelles, au point que on en arrive aujourd'hui à poser la question tout à fait passionnante du contournement d'une démocratie représentative par une forme de démocratie directe à travers les référendums d'entreprise. Et de ce point de vue, je crois que la notion de représentation, on peut effectivement la distinguer entre représentation politique, représentation économique et sociale, et on pourrait ici peut-être ajouter d'autres éléments, mais je crois que, quel que soit au fond le qualificatif que l'on lui accole, on retrouve à chaque fois les problèmes dont parlait Pierre Rosanvallon au début de notre discussion, c'est-à-dire au fond les problèmes de procédure et les autres.
Alors, on en revient à la question que je vous posais initialement sur le lien entre représentation et démocratie. Si on fait le constat d'une faible représentation de la société française au sein des partis politiques, mais aussi au sein des syndicats, comme vous le rappelez Olivier Dard, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire le deuil du recours à la représentation pour atteindre l'exercice démocratique et penser, vous disiez, de nouvelles institutions, Pierre Rosanvallon, la démocratie directe dont vous parliez, Olivier Dard, quels sont les moyens que nous avons à disposition pour rester en démocratie sans en contournant la représentation, très concrètement?
Je crois que du point de vue, parce qu'il y a aussi un troisième élément, me semble-t-il, c'est une forme de séparation qui peut exister entre, Pierre Rosanvallon parlait de catégories effectivement dont on ne parle pas, mais aussi de catégories qui s'estiment pas ou mal représentées dans les médias. Ça, c'est aussi un élément tout à fait fondamental. Et tout à l'heure, nous parlions effectivement, vous parliez du phénomène Charlie, très intéressant, mais la question de la manif pour tous est également très intéressante. Elle est même passionnante. Alors cette fois-ci, plutôt vue de l'autre côté. Bon, je sais bien que tout le monde était Charlie, mais bon, tout de même, là, c'est plutôt de l'autre côté, mais ça a posé aux partis politiques une question, aux partis politiques, y compris au Front National d'ailleurs, une question à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et à laquelle ils n'ont pas directement répondu, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne traite pas les problèmes ne se posent pas, parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'ils se reposent sous autre chose que sur le mariage pour tous, sur d'autres enjeux sociétaux. Et je crois que là, il y a une véritable question qui est celle, effectivement, de nouvelles catégories émergentes pouvant prendre une forme de parole publique et introduisant sans doute des changements de règles du jeu. Ça me paraît assez évident.
Mais alors ça voudrait dire réinvestir la notion de représentation. Absolument. Au contraire, et faire en sorte que davantage de personnes soient représentées. Donc il ne s'agit pas du tout d'aller vers une forme de démocratie directe.
Ah, c'est pas incompatible. C'est pas du tout incompatible.
Cynthia Fleury.
On peut combiner les deux.
Quand tout à l'heure j'ai dit les combinaisons les plus efficaces de participation et de représentation, on va vers ça. C'est-à-dire, dans une obligation de penser la représentation différemment, ça ne veut pas dire, encore une fois, de se substituer à ce qui existe aujourd'hui. On peut améliorer déjà ce qui existe aujourd'hui. Il y a une belle marge de manœuvre, il y a une belle marge de progression. On l'a dit tout à l'heure, plus de parité, plus de diversité, moins de cumul. Enfin, il y a toutes sortes de règles qui peuvent aider déjà à une meilleure représentativité. Ensuite, oui, il y a des outils à inventer. Il y a à refaire pacte avec...
Alors, quels sont-ils ces outils, puisque vous les évoquez les uns les autres, de manière très concrète?
Là, il y a déjà un premier outil qui a été subrepticement posé, c'est-à-dire, à un moment donné, si vous voulez vraiment mettre en place une citoyenneté capacitaire, vous renvoyez à la modélisation économique de cette citoyenneté capacitaire.
C'est-à-dire
une allocation universelle, c'est-à-dire un revenu moyen, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'à un moment donné, vous ne travaillez pas simplement pour survivre. C'est deux choses différentes, et vous pouvez libérer un temps propre, un temps pour penser, et un temps qui peut être citoyen, et à ce moment-là, vous pouvez vous former, vous pouvez vous approprier les nouveaux outils. Encore une fois, je le dis souvent, mais vous avez aujourd'hui un outil européen, qui est possible, qui s'appelle l'ICE, c'est-à-dire l'Initiative Citoyenne Européenne. Mais faire une initiative citoyenne européenne, ça se fait pas, si vous voulez, en rentrant et en passant une heure pour la faire. C'est une constitution d'un groupe, d'une certaine forme de pondération. Il faut quasiment avoir des compétences, pas quasiment, il faut avoir des compétences de juriste pour proposer un texte digne de ce nom. Il faut avoir amendé, collecté quantité de mandats de tel et tel et tel pour montrer sa propre représentativité. Enfin, c'est toute une compétence qui fait que s'il n'y a pas de modélisation économique, si vous n'êtes pas protégé au niveau financier, au niveau tout simplement de votre survie de chaque jour, vous ne pouvez pas faire ce travail-là. Donc ça, c'est un point. Autre chose aujourd'hui, Je ne sais pas ce que ça donnera, mais vous avez eu l'annonce, je crois que c'était hier ou avant-hier, d'un parti européen, Varoufakis, Montebourg. On verra ce que ça donne. Mais je veux dire par là que voilà ce que c'est un nouvel outil. Un nouvel outil, c'est que nécessairement, on n'est plus dans des partis nationaux, on va être dans des partis transverses, on va être dans une autre manière de faire vivre cette citoyenneté européenne qui est quand même totalement sous-investie.
Pierre Rosanvallon.
Il me semble qu'on faut aller, je le dis franchement, qu'il faut aller beaucoup plus loin. La démocratie, ça, c'est tout de même un ensemble d'institutions qui ont 2 siècles d'existence, qui ont été centrées autour de fonctions parlementaires, autour d'organisation du suffrage universel à partir des partis politiques, mais que on peut améliorer, on doit améliorer ce système. Et nous avons discuté tous les trois de quelques directions d'amélioration. On peut discuter aussi de l'introduction de procédures de type référendaire un petit peu plus fréquentes, tout en sachant qu'il faut vraiment une discussion pour savoir si la multiplication des référendums, c'est véritablement la voie de la démocratie. Moi, je ne le pense pas, mais nous n'avons pas véritablement le temps de le discuter ici. En revanche, il est très important de sortir, je dirais, du seul horizon électoral parlementaire. Je pense que la démocratie, ça n'est pas simplement un système de choix des gouvernants. Voilà la question fondamentale. Aujourd'hui, la démocratie, ça n'est que le choix des gouvernants. Il faut que la démocratie, ce soit aussi un ensemble d'institutions qui permettent de contrôler ces gouvernants, qui permettent de surveiller ces gouvernants, qui permettent de les mettre à l'épreuve, qui permettent d'évaluer leurs actions. Et là, nous n'avons pas les institutions de contrôle, de surveillance, d'évaluation, de mise en jeu de la responsabilité. Et cela, pour moi, c'est dessiner d'une façon générale, un peu une deuxième révolution démocratique. Pour l'instant, la démocratie que nous avons connue, c'est une démocratie électorale, parlementaire, avec tout ce qu'elle a apporté et tout ce qu'elle doit continuer à représenter. Mais nous avons besoin de trouver des institutions pour faire vivre d'autres catégories de fonctions démocratiques. Prendre le pouvoir, ça n'est pas simplement vivre à travers celui qui dirige. Sinon, c'est l'image du populisme quand on voit un Chavez qui dit « Moi, je ne suis rien, je ne suis que la marionnette entre les mains du peuple ». C'est ça le discours populiste. Le discours populiste, c'est de dire « Le peuple gouverne parce que je ne suis l'incarnation du peuple, je ne suis que la marionnette du peuple ». Mais la réalité, c'est que le peuple gouverne s'il a les moyens de contrôle, s'il a des moyens de surveillance.
Non, il part des institutions, dites-vous, dont il serait à l'origine.
Exactement. C'est cela, aujourd'hui, je dirais, ce qui dessinerait une deuxième révolution démocratique. Et de même pour la représentation. La représentation, c'est pas simplement dire on représente le peuple comme s'il existait en catégories que l'on pourrait découper. C'est aussi faire peuple, faire société. Le grand problème de la société française aujourd'hui, c'est pas simplement, et bien sûr, c'est décisif, le fait que des personnes sentent que leurs problèmes ne sont pas pris en compte. C'est que les Français sont dans l'ignorance les uns des autres. Au moment de la révolution de 1848, Michelet a eu cette phrase qui, moi, m'a toujours beaucoup frappé. Il disait « Nous ne pourrons pas faire la démocratie si nous restons dans une terrible ignorance les uns des autres ». Or, aujourd'hui, ce qui nourrit souvent la société française, c'est le fait que dominent des préjugés, dominent des stéréotypes sur la vie des gens. Et faire démocratie, c'est aussi être dans un rapport à la réalité des autres, se connaître les uns les autres.
Merci Pierre Rosanvallon, Cynthia Fleury et Olivier Dard. Ce sera donc les mots de la fin. Un grand merci à tous les trois d'être venus participer à ce débat aujourd'hui. Et merci à vous, public très nombreux, d'être encore là. Et donc la parole est à vous en bon exercice démocratique. On passe à l'action maintenant.
Merci. Oui, je voulais poser la question peut-être plus à Monsieur Rosanvallon, puisqu'on est dans la philosophie. Là, qu'est-ce que vous pensez de la question du tirage au sort ? Alors, je parle du tirage au sort de la représentation nationale, c'est-à-dire les députés, puisque là, on revient à Platon, puisqu'il se demandait qui avait le titre à gouverner. Est-ce que c'est les plus riches ? Est-ce que c'est les plus savants ? Est-ce que c'est les plus instruits ? Est-ce que c'est les plus sages ? Et est-ce que c'est pas aussi tout un chacun ? Et je pense également au livre de Jacques Rancière sur la haine de la démocratie, où il développe aussi cette question.
Pierre Rosanvallon.
Il y a trois moyens, il y a trois techniques pour choisir des personnes. Il y a l'élection, l'examen et le tirage au sort. Alors elles ont leurs vertus réciproques. L'élection, c'est après débat une forme de sélection d'une personne. L'examen, c'est le choix en fonction, par exemple, d'une compétence. Or, l'élection a, à bien des égards, une supériorité sur l'examen. Parce que si on faisait passer un examen de Premier ministre ou un examen de Président de la République, personne ne serait d'accord sur qui compose le jury, qui fait le programme et qui corrige les copies. Donc là, on voit que c'est un vrai débat. En Chine, aujourd'hui, les Chinois disent, nous sommes, enfin, le Parti communiste chinois dit, nous sommes contre le suffrage universel parce que c'est une façon archaïque de choisir les dirigeants. La meilleure méthode, c'est l'examen. C'est de revenir au mandarinat ancien. Et effectivement, le suffrage universel a, à l'inverse, une supériorité sur l'examen. C'est que ça met tout le monde d'accord parce que 51 est supérieur à 49. Donc, là, il y a une supériorité de l'élection sur l'examen. Mais le tirage au sort a une grande vertu. Le tirage au sort a la vertu de mettre l'accent sur le quelconque. On peut dire que l'élection a une dimension de sélection. On cherche à sélectionner une qualité spécifique. Et on peut avoir des idées différentes de la qualité spécifique. Mais le tirage au sort, c'est valoriser le quelconque. Or, le quelconque doit avoir sa place dans la démocratie. Le quelconque est une manière de faire vivre, si je puis dire, le peuple. Le peuple existe aussi à travers le quelconque. Et on le sait dans les jurys criminels, par exemple. Mais il me semble qu'il faudrait donner véritablement plus de place au quelconque dans la démocratie. Alors c'est une idée qui se développe à travers celle des jurys citoyens, par exemple, tirés au sort. Et je pense que c'est véritablement très important. J'étais très réticent au début sur cette idée de tirage au sort, mais je pense que quand on essaie de faire une typologie de cette distinction entre ce à quoi revient élire, passer un examen et tirer au sort, je pense qu'on ne fait pas assez de place au tirage au sort. Alors est-ce qu'il faut tirer au sort les députés ? Cela, c'est une discussion. Est-ce qu'il faut élection, tirage au sort, examen ? Non, ça c'est clair. Mais vous avez raison de dire, il faut donner plus de place au tirage au sort dans la démocratie. C'est une façon aussi pour la société de s'approprier la politique, en sachant que c'est le pouvoir, le tirage au sort de n'importe qui. Et ça, c'est très important. N'importe qui, c'est le sujet de la démocratie.
Merci. Alors peut-être là-haut, parce qu'il y a des gens qui lèvent la main là-haut. Il y a une question en haut.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Bonjour. Donc en 2001, j'ai commencé à militer pour la reconnaissance du vote blanc. Et donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensiez, au prime abord. Et force est de constater qu'en période d'élection, il est hors de question de faire un débat politique pour éviter évidemment d'inciter les gens, les électeurs, à voter blanc. Donc c'est très compliqué en période électorale de parler de vote blanc. Donc est-ce que l'élection ne s'oppose pas justement à la réforme de la procédure d'élection justement ? Est-ce que c'est pas le plus mauvais moment pour discuter de la réforme de l'élection, alors que c'est justement peut-être ce qu'on demande le plus aujourd'hui?
Merci beaucoup pour cette question. Olivier Dard, vous voulez répondre?
Oui, non, mais je crois que la question est effectivement intéressante. Nous n'avons pas parlé du vote blanc, pas plus que nous n'avons parlé d'ailleurs du vote obligatoire qui avait été implanté notamment en Belgique. Non, je crois que la question du vote blanc et de son décompte est un problème important. Alors, chacun le sait, la question est un problème de comptabilité entre vote blanc et vote nul, mais ce que l'on constate tout de même dans un certain nombre de scrutins, y compris dans des scrutins récents, c'est que même si on ne peut pas isoler les votes blancs, ils progressent. Enfin, les blancs et nuls progressent, donc on peut considérer qu'il y a, à travers effectivement cette expression d'un vote blanc, l'expression effectivement d'une désaffection, non pas sur le principe électoral, mais sur justement l'offre politique qui se traduit par une forme de participation qui n'est pas effectivement le refus que signifie l'abstention, mais qui montre en même temps que la démocratie telle qu'elle fonctionne a ses faiblesses. Cela étant, je voudrais ajouter un tout petit mot, ce dont nous n'avons pas parlé et qui en même temps montre une différence sans doute par rapport à des décennies antérieures, c'est que aujourd'hui, malgré la crise de démocratie que nous connaissons, au fond, les discours antidémocratiques classiques, hein, la théorie antidémocratique, n'est plus, à l'heure actuelle, partagée ou reprise. Et ça, c'est quelque chose de, me semble-t-il, de tout à fait frappant. Elle renvoie davantage aux théories politiques, je pense en particulier à Maurras, que j'ai étudié de près, mais il est clair que, malgré les problèmes que pose le fonctionnement actuel de cette démocratie, il n'y a pas véritablement de parti qui aujourd'hui affirme la volonté de sortir, sauf ce qui reste de l'Action française, de sortir véritablement de ce système démocratique.
Merci beaucoup. Il nous faut malheureusement nous arrêter maintenant. Merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la diffusion du troisième débat enregistré samedi 30 janvier dernier dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Le troisième débat réunira les philosophes Sophie Gérard de la Tour, Alain Finkielkraut et Thierry Leger pour interroger les notions d'identité et de nationalité à partir d'une question.
Qu'est-ce qu'être français ?